Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer. Nous sommes donc toujours occupés de ce thème qui est de l'amour. Et je vous propose donc aujourd'hui de prendre le chapitre 15 de l'évangile de Jean et de regarder donc comment nous pouvons demeurer dans l'amour de Jésus. Si quelqu'un peut donner la page dans les Bibles papier, page 146. Moi, je suis le vrai cep, le vrai plant de vigne, et mon père est le vigneron. Tous les sarments en moi ne portent pas de fruits. Il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent du fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. Si l'on persécutait, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux les œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant, bien qu'il les a vus, il continue à nous haïr, et moi, et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole décrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre service à Dieu. Voilà. Pendant plus de 20 ans, j'ai participé à des colonies de vacances, les camps, comme nous les appelions. Et un été, je devais expliquer à mes têtes blondes ce qu'est l'amour de Jésus. Et je leur dis, voyez-vous, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire ce que dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Et tous les enfants étaient d'accord avec cet adage. Ils avaient manifestement compris le message. Mais une fois la séance achevée, les moniteurs présents me sont tous sautés dessus pour me dire, « Es-tu trop ça simple, toi ? S'aimer les uns les autres ?» Et effectivement, il n'y a rien de plus ardu que de réaliser ce commandement, et un commandement pourtant simplissime, ce commandement simplissime de Jésus. Alors d'abord, pour planter le décor, essayons de définir l'amour. Si nous prenons la définition du dictionnaire de Pierre Larousse, cela nous donne, premièrement, sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Éprouver de l'amour pour quelqu'un, c'est une belle histoire d'amour, etc. Deuxième définition, mouvement de dévotion, de dévouement qui porte vers une divinité, un idéal, une autre personne, etc. L'amour de Dieu, de la vérité, du prochain. Troisième définition, goût très marqué, passion pour quelque chose, l'amour des pierres, des bateaux. Voilà. Là, on remarque que la définition courante, la première définition, se veut très égoïste, très restrictive. Peut-on en effet avoir une attirance physique pour tout un chacun ? La deuxième approche porte vers la dévotion envers un idéal ou le divin. Et pourtant, est-ce que le Seigneur nous dit ici ? Parle-t-il de dévotion, béatement, statiquement ? En aucun cas. Il nous montre ici ce qu'est l'amour, le véritable amour. Cet amour, c'est vouloir le bien à nos frères qui nous entourent, sans contrepartie, que ce soit en faveur de Pierre, Paul ou Jacques. L'amour, selon Dieu, ce n'est pas se sentir bien et en phase avec quelqu'un, même si nous le recherchons, bien sûr. Ce n'est pas cela que l'amour recouvre. L'apôtre Paul a pu le préciser, comme nous l'avons déjà observé ces semaines précédentes, en 1 Corinthiens 13. Bon, cité, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Et on peut aussi traduire « il fait confiance » par « il croit tout ». On ne cherche pas à remettre en doute ce que nous dit notre frère, parce que l'amour, il fait confiance. Et cela s'adresse à tous et pour tous. « Aimez-vous les uns les autres », a dit le Seigneur. Et dans quelle mesure nous devons réaliser cela ? Comme moi, je vous ai aimé. Comme moi, je vous ai aimé. La barre est donc très haut, même pas. Elle est tout simplement inaccessible. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons ici ? Retournons tout de suite à nos occupations personnelles. De toute façon, comme dit le dicton populaire, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce n'est bien sûr pas la volonté ni le message développé ici par le Seigneur. Alors, voyons d'abord le premier tableau que le Seigneur nous propose à partir du verset 3. Le cep et les sarments. Je suis le vrai cep et vous les sarments. Quelle leçon rien que dans ces quelques mots. Un sarment, cette bête branche de vigne, cette frêle branche de vigne, mais qui supporte pourtant de grosses grappes de raisin. Et pourquoi elle les supporte ? Elle les supporte parce qu'elle est attachée au cep. Sinon, eh bien, tout tomberait. Si on voit donc à quelle taille peuvent devenir même les grappes de raisin, comme ces grappes d'escol que les espions ont pu ramener lors de leur visite de Canaan, des grappes tellement grosses qu'ils étaient à deux pour remporter une. Eh bien, c'est le fruit que nous pouvons porter si nous demeurons attachés au secte, si nous demeurons attachés au Seigneur, si nous voulons donc nous nourrir de lui. Le Seigneur ajoute juste après, « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Waouh ! Quelle promesse ! Alors, si nous demeurons dans le Seigneur, est-ce que nous pourrons obtenir, par exemple, une Bugatti Chiron ? Non. Et pourquoi ? Parce que nous, en fait, nous n'en aurons même plus le désir. Ce n'est pas ce genre de désir que nous aurons. Par contre, ce que le Seigneur développe dans ce deuxième tableau, cela nous pourrons l'avoir à cœur. Et nous obtiendrons ainsi du Seigneur ce qui en découle. Nous obtiendrons donc d'avoir en nous son amour. Et alors, c'est le Seigneur qui fera le reste en nous, par nous et pour nous. Alors du coup, le Seigneur développe le deuxième tableau, l'amour divin à partir de verset 9. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. » Voilà donc comment nous pouvons réaliser ce commandement du Seigneur. Ce commandement, remarquons-le d'emblée, l'amour à l'aune divine, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Verset 17, « Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. » Pourquoi un commandement ? Un commandement, ça ne se discute pas. Un commandement s'impose. Un commandement, c'est ce qu'il faut s'efforcer d'accomplir. Pensons aux militaires. Un militaire ne cherchera jamais à déroger un ordre de son supérieur. Et nous savons ce qu'il advient de ceux qui, par hasard, le feront tout de même. La punition est sévère. Alors pour nous, ce n'est pas par esprit de possible punition, de rétorsion que nous faisons cela, mais parce que nous aimons Dieu. Réaliser l'amour de Dieu, cette mission impossible, c'est donc un effort de chaque instant. Mais à la clé, il y a cette promesse que le Seigneur fait immédiatement après. Et quelle promesse ? Votre joie sera complète. Si nous aimons, eh bien nous avons de la joie. Quelque part, cela pourra paraître étonnant. Mais non, on le réalise quand nous sommes dans l'amour. Une joie complète, ou bien on peut traduire aussi accomplie, c'est-à-dire arrivée à terme, que plus rien ne peut altérer. Et cette joie est donc inaltérable, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur commence par proposer d'obéir à ses commandements, au pluriel. Et puis pour finir, on n'en voit qu'un. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Mais en définitive, s'il n'y a plus qu'un seul commandement, c'est parce que tout le reste en découle. Peu avant, il avait déjà pu enjoindre à ses disciples ce commandement, qui est présenté alors comme un commandement nouveau en Jean 13. Et Jean pourra le rappeler aussi dans sa deuxième lettre à la dame que Dieu a choisie en précisant que ce commandement, il l'avait reçu avec ses condisciples dès le commencement. Et pourquoi ce seul commandement ? Parce que c'est la somme de toute la loi, c'est-à-dire que tout découle de ce sujet. Et c'est ce que Jésus fait remarquer au docteur de la loi qui était venu pour le piéger. On voit en Matthieu 22 ce que le Seigneur, ce que Matthieu nous rapporte. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda : Maître, quel est, selon la loi, le commandement le plus grand ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Voilà. Si nous réalisons ce commandement, eh bien, nous réalisons tout ce que le Seigneur désire. Mais pour réaliser ce commandement, nous ne sommes pas sans ressources. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais dans l'intervalle, il nous faut aussi avoir à l'esprit ce que le Seigneur développe juste après, en quelque sorte dans le deuxième tableau bis, la contrepartie, c'est-à-dire la haine du monde. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et là, le Seigneur fait référence au psaume 35, où donc le psalmiste précise qu'ils l'ont haï sans cause, sans raison. Et c'est ce que, au verset 25, nous trouvons. Il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. En effet, le Seigneur développe la contrepartie, la haine du monde. Il n'y a pas d'alternative. Ou l'on garde les paroles du Seigneur, ou on cherche à persécuter celui qui la porte. Celui qui montre autour de lui l'amour dont Dieu fait preuve. Mais quelle terrible mise en garde de Jésus. S'il n'avait pas accompli au lieu d'eux les œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, il ne serait pas coupable. Ayant pu observer les bontés du Seigneur, on est sans excuse si on les rejette. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains au chapitre 12 à ceci. Pardon. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et le Seigneur nous disait, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Voilà donc quel est aussi le but de l'amour, c'est que tous connaissent que nous sommes les disciples du Seigneur. Et en faisant cela, eh bien, nous réalisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Eh bien, nous entassons des charbons ardents sur la tête de ceux à qui nous apportons l'amour du Seigneur, si nos interlocuteurs n'ont pas encore compris ce dit amour. Alors, nous avons dit que pour réaliser cela, nous avons des ressources. Et c'est l'objet du troisième tableau que le Seigneur développe à partir de verset 26, le paraclé, pour prendre le terme grec, le défenseur, qu'on peut aussi traduire par le consolateur. Et quand il sera venu, verset 26, celui que je vous enverrai auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Voici donc quelles sont les ressources que le Seigneur nous a laissées. Le défenseur, le consolateur. Cet esprit qui nous permet d'être témoins. Sans cela, nous ne pouvons pas réaliser l'amour divin. Celui qu'il nous faut, une obligation manifestée pour nos frères. Cet amour que le Seigneur nous a commandé de délivrer autour de nous. Et alors, si je déroge à cette invitation, qui suis-je? Eh bien, je suis comme tous les hommes, ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Je suis de ces sarments qui doivent être coupés, mis à sécher, brûlés. Et nous mesurons la difficulté à vue humaine de réaliser ce commandement de Jésus. Combien de fois n'ai-je pas pesté contre un tel ou un tel, parce qu'il m'agace, ne comprend rien à rien, peut-être parce qu'il m'a causé du tort. Le Seigneur n'a pas exclu de notre champ relationnel ce qui était déplaisant avec nous, malheureusement, entre guillemets. Mais heureusement, l'Esprit du Seigneur est là, pour nous aider, et nous pouvons ainsi à tout instant crier au Seigneur, pour qu'il nous donne la force de réaliser son amour, et le cas échéant de demander pardon. Et Jésus d'ajouter, « Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. » Au début du chapitre 16. En d'autres termes, si nous avons à l'esprit tout ce que nous a dit le Seigneur, alors nous pourrons réaliser ce qu'il nous demande, avec l'aide indispensable de l'Esprit Saint. Alors effectivement, aimer les autres, quel défi ! Parce que cela est à l'antipode de l'égoïsme, cet égoïsme qui nous caractérise si bien. Dans une revue médicale, mon père avait une fois trouvé cet adage, la définition d'un égoïste. Et cette définition, c'était, c'est celui qui ne passe pas chaque heure, chaque minute, chaque seconde de sa vie à penser aux autres égoïstes. Voilà ce que nous sommes par nature, mais par l'œuvre du Seigneur en nous, cette nouvelle nature qu'il nous a mis en nous-mêmes, eh bien, nous pouvons réaliser ce commandement. Ce commandement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui n'est pas pénible. Mais, pourtant, quelle difficulté pour en reprendre ce que mes collègues moniteurs à l'époque disaient. Ils ne trouvent cela simple, non. Ils réalisaient que leur nature propre, leur ancienne nature, leur nature pécheresse, n'avait pas du tout envie d'aimer les autres, et que nous devons chacun réaliser donc ces efforts de nous mesurer à l'aune de l'amour de Dieu. Cette barre si haute que nous ne pouvons l'atteindre, mais que pourtant le Seigneur nous commande. Alors pour conclure, je voudrais simplement vous lire ce psaume 133e de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron qui coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Quel beau psaume et quel rafraîchissement c'est que d'être ensemble, de pouvoir donc montrer notre amour pour nos frères. Merci.